Le premier tour des élections législatives, l'événement politique est sur Europe 1.
Laurence Ferrari.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur CNews et sur Europe 1 pour cette grande soirée législative 2022. On va vous faire vivre en direct les résultats dans vos régions, dans vos départements, avec des événements, des surprises peut-être à venir tout au long de la soirée. Les envoyés spéciaux de CNews et d'Europe 1 seront sur le terrain pour vous donner les réactions des candidats, des ministres battus, élus. Il y aura beaucoup de surprises ce soir, à n'en pas douter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avenir du quinquennat se joue aujourd'hui. Quelle majorité les Français vont-ils donner à Emmanuel Macron? Majorité large, majorité triquée, pas de majorité du tout. Toutes les options sont sur la table. La NUPES et Jean-Luc Mélenchon vont-ils remporter leur pari et imposer une cohabitation à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il y aura assez de sièges pour Jean-Luc Mélenchon afin de le propulser à Matignon? C'est ce dont il rêve. Quel score aussi pour Marine Le Pen, très important, qui s'est vue devancée par Jean-Luc Mélenchon comme premier opposant à Emmanuel Macron? Quelle est la force réelle politique du Rassemblement National dans notre pays? La droite LR a-t-elle de quoi avoir un avenir? Est-ce qu'elle est ancrée dans les territoires ou pas? Est-ce que le score des députés LR sera clé pour les futures majorités à trouver pour Emmanuel Macron? Enfin, Éric Zemmour va-t-il remporter son pari risqué de se présenter dans le Var? Combien d'élus peut espérer Reconquête qui pointe du doigt la stratégie de non-alliance de Marine Le Pen? Voilà quelques-unes des nombreuses questions qui vont se poser ce soir sur CNews et sur Europe 1. Et puis, il y a bien sûr le fait majeur politique du soir, le poids de l'abstention qui se fait de plus en plus lourd dans notre pays, signe du désamour profond entre les électeurs et leurs élus. Comment réconcilier les Français avec leurs élites politiques? Ça aussi, c'est l'une des clés qu'il faudra qu'Emmanuel Macron étudie de très près ce soir. Le seul chiffre que nous avons à notre disposition pour l'instant, c'est le chiffre de l'abstention. Bruno Jambard est avec nous d'Opinionway. Le chiffre est très très haut, près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé, c'est bien cela Bruno?
Oui, même un peu plus, hein, 52,5% d'abstention. C'est l'estimation que nous fournissons pour l'abstention finale à 20h. C'est un record sous la 5e République pour des élections législatives. Ce que l'on constate, c'est que l'abstention ne cesse de progresser d'élection en élection. Alors certes, elle a moins progressé qu'entre 2012 et 2017 pour les élections législatives. À l'époque, on avait eu près de 10 points de plus d'abstention. Là, c'est un peu plus d'un point de plus, mais c'est un nouveau record. Et donc, c'est la confirmation que c'est une élection qui intéresse de moins en moins les Français. Et puis, la confirmation d'une, je dirais, d'une séquence électorale depuis 2020 extrêmement mauvaise. Très mauvaise participation aux municipales, record énorme d'abstention au régional, une abstention plus haute que d'habitude à la présidentielle et maintenant un record d'abstention aux législatives.
Je vous présente brièvement nos invités, je vous passe la parole dans un instant, on va partir sur le terrain. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, bonsoir Louis.
Bonsoir Laurent.
Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, bonsoir Charlotte. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Gérard Leclerc, qui est là avec nous, journaliste politique à CNews. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir, et donc Laurent. Bruno Jambard, d'Opinionway pour CNews. Allez, on va tout de suite partir sur le terrain. À l'Élysée, où se trouve Samy Sfaxi avec Olivier Gangloff. Samy, Emmanuel Macron est attendu à l'Élysée. Il a voté, en tout cas, dans la journée. Le président va, bien sûr, regarder de très, très près les résultats du soir.
Bonsoir Laurence, bien sûr, et ce que je peux vous dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il est arrivé, eh bien d'ores et déjà, ça y est, il est à l'Élysée, entouré de ses plus proches collaborateurs, on nous a informé il y a quelques minutes, entouré d'abord d'Elisabeth Borne, la première ministre qui va suivre avec le président de la République, eh bien ses résultats, Olivia Grégoire aussi, la porte-parole du gouvernement sera présente, tout comme Gabriel Attal ou encore Christophe Castaner. Et évidemment, eh bien tout au long de la soirée, ils vont scruter circonscription par circonscription, résultats. L'enjeu, il est de taille. Avoir une majorité solide à l'Assemblée pour pouvoir réformer sans être empêché. Et puis Laurence, quid des 15 ministres qui sont engagés dans cette législative? 15 ministres sur 28 membres du gouvernement. C'est un mouvement en tout cas d'ampleur. Et donc, dans un peu plus maintenant d'une heure, on connaîtra les premiers résultats.
Merci Samy, avec Olivier Gangloff. Au ministère de l'Intérieur, maintenant on va retrouver Thibault Hue avec Inès Savadier. Thibault, la participation est en baisse et là aussi c'est historique.
Oui, 39,42%, c'est un taux de participation record, plus d'un point de moins qu'en 2017. Ils étaient 40,7% à voter il y a 5 ans à cette heure-ci. Pour faire une comparaison, à 17h pour le premier tour de l'élection présidentielle, ce chiffre était bien plus haut, 65%, même si on sait bien sûr que les électeurs se déplacent traditionnellement plus pour élire le président. Alors d'abord là où on a le plus voté, c'est dans le Lot, 52,3%, et dans les Pyrénées-Atlantiques, 50,4%, un duo de tête largement au-dessus de la moyenne nationale. Par contre, en queue de peloton, on trouve la Seine-Saint-Denis, sans surprise, un département qui d'habitude vote moins que les autres, hein, 27,7% de participation, suivi par le Val-d'Oise, la Moselle et l'Essonne. Et à Paris, à 17h, on constate la même affluence qu'en 2017, 36,5%, là encore sous la moyenne nationale. Et ce taux de participation va continuer d'augmenter jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote. Résultat définitif à 20h.
Merci beaucoup Thibault avec Inès Sabatier. Louis de Ragnel, intéressant ces chiffres de participation, d'abstention. On voit en fond des départements, qui s'est abstenu et qui a voté, hein.
Oui, alors, dans l'abstention, ce qu'on voit, c'est que ce sont les départements les plus populaires, hein, sans surprise, qui, effectivement, votent le moins. Ensuite, on pourra analyser, interpréter. Pour le moment, je sais qu'on ne peut pas donner d'interprétation. Mais ce qui est intéressant par rapport aux chiffres nationaux, c'est qu'en fait, l'intérêt des Français pour cette élection est paradoxalement inversement proportionnel à l'enjeu de ce scrutin. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'enjeu c'est est-ce que Emmanuel Macron aura ou pas une majorité? Comment est-ce que se reconfigure aussi toute la vie politique au lendemain de l'élection présidentielle? Et donc, on voit bien, les Français en fait ne s'y intéressent pas, sont totalement désintéressés par cette élection, mais c'est pas la première fois. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait, le problème c'est que les Français se désintéressent globalement de toute la vie politique du pays. Et donc, il va falloir, on le dit en fait malheureusement à chaque élection, mais là, je pense qu'il y a vraiment urgence, tirer vraiment les enseignements et pas uniquement avec des produits cosmétiques. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, les politiques, en tout cas l'exécutif, essayent de trouver des solutions, mais ce ne sont manifestement pas des solutions qui plaisent aux électeurs.
Il y a une idée de Conseil national de refondation. Je ne suis pas sûre, Charlotte Dornelas, que ça motive beaucoup les Français pour aller mettre leur bulletin dans l'urne, disant « Ah ben ça, mon bulletin, il va faire changer les choses dans notre pays ».
Non, mais en plus, le Conseil national de la Fondation, ça ressemble à du Emmanuel Macron. Hein. C'est-à-dire qu'après le grand débat, après les cahiers de doléances dont on n'a jamais vu les suites, après les citoyens tirés au sort pour parler climat, là, il nous met tout dans un seul Conseil national de la Fondation qui doit servir d'alternative, on imagine, à la fois à l'Assemblée, au Sénat, aux corps intermédiaires qu'il a plus ou moins maltraités pendant ces 5 années. Moi, j'y vois une conséquence, c'est-à-dire que l'augmentation de l'abstention qui était déjà forte ces dernières années est une conséquence directe de la neutralisation des idées politiques qu'est le macronisme. Il a voulu, Emmanuel Macron, quand il a été élu il y a 5 ans, dépasser les clivages. On a passé 3 semaines après sa réélection à se demander, nous tous autour de cette table, à se demander quel président il allait être après 5 ans de mandat, après une réélection. Donc il y a une neutralisation même de la ligne politique. Et je ne sais pas si les Français sont désintéressés, mais ils sont légitimement désabusés, ça c'est sûr.
Jean-Sébastien Ferjou, quel est le point d'intérêt pour vous ce soir? C'est du côté de la NUPES, de ce qui se passe à gauche? C'est du côté d'Emmanuel Macron, à droite? Où est le point le plus important pour vous?
Il y a à la fois de l'abstention, on vient d'en parler, parce que malgré tout, il y a un malaise démocratique qui est spécifiquement français. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays voisins, les participations sont beaucoup plus élevées. En Allemagne, les dernières élections nationales, la participation était de 76%. Au Royaume-Uni, 67%. Aux États-Unis, on se souvient que la présidentielle américaine s'était traduite par une participation record. Pays-Bas, 82% de participation pour les dernières élections législatives. Donc on voit qu'on a un problème français qui est incontestable et effectivement, dont je pense qu'il ne sera pas réglé par des améliorations cosmétiques qui sont elles-mêmes contre-productives. Et vous le disiez, créer un Parlement bis à côté en tirant des citoyens au sort, pourquoi donc s'ennuyer à se déplacer pour aller voter? Après, effectivement, c'est à quel point les gens ont été éliminés, parce qu'il peut y avoir une part de surprise. Il y avait, me semble-t-il, au moins 50 circonscriptions dans le cadre des sondages montrées que le troisième était à moins d'un point des deux premiers. Et donc, selon celui qui est qualifié... Ça peut donner une configuration à laquelle on s'attend peu, et des surprises, vous les évoquiez, parce que les sondages, pour l'instant, je pense que les Français étaient incapables de se projeter dans la configuration deuxième tour. C'est pas la même chose de vous demander dans l'absolu, au niveau national, pour qui souhaiteriez-vous voter. Si vous êtes dans une configuration RN face à la NUPES, il y a beaucoup de Français qui peut-être ne savent pas pour qui ils voteraient.
Je passe la parole dans un instant, Gérard Leclerc, Alexandre Devecchio. On va juste repartir sur le terrain. Circonscription très importante, c'est Hénin-Beaumont, 11e circonscription du Pas-de-Calais. Marine Le Pen est bien sûr la candidate ultra favorite. Élodie Huchard est sur place avec Charles Baget. Que fait Marine Le Pen en ce moment, Élodie?
Eh bien écoutez, Marine Le Pen, vous savez, ces journées sont très millimétrées en réalité, les jours d'élection. Elle vote toujours en fin de matinée comme elle l'a fait aujourd'hui, accompagnée de son suppléant et maire de la ville, Steve Briouat. Ensuite, elle a déjeuné avec lui, elle a pris un petit temps pour elle et puis désormais, elle se trouve à l'hôtel de ville d'Hénin-Beaumont. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le bureau centralisateur de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. C'est-à-dire que c'est là que tous les résultats des bureaux de vote remontent. On est dans une circonscription où tous les bureaux de vote sont désormais fermés. Ils sont clos depuis 18h. Ensuite, elle va venir Juste ici, derrière moi, d'ailleurs, on voit les militants qui commencent tranquillement à arriver. Il y a un peu moins de 100 chaises derrière moi, donc ça sera véritablement en comité restreint. Marine Le Pen qui devrait arriver, nous dit-on, vers 20h, 20h15, le temps de saluer les gens présents. Elle fera une déclaration entre 20h30 et 20h45. Et puis, non loin de là, il y a une deuxième salle qui a été ouverte où il y a davantage de militants. Alors, est-ce que Marine Le Pen s'y rendra par la suite? Que fera-t-elle demain? Eh bien, tout ça, nous dit-on, dans son entourage, ça dépendra des résultats. Une déclaration forcément particulière pour Marine Le Pen. Elle sera forcément avec une connotation locale. On le rappelle, Marine Le Pen est la députée sortante de cette circonscription. Elle tente donc de sauver son siège, mais on devrait s'attendre aussi à avoir un écho plus national pour celle qui, on le rappelle, a été la candidate à l'élection présidentielle du Rassemblement national.
Merci Élodie Huchard. C'est vrai qu'il faut toujours le rappeler. Charles Baget est avec vous. Gérard Leclerc, Marine Le Pen est évidemment... Elle joue gros aussi ce soir ou pas?
Oui, elle fait partie de ceux et de celles qui ont fait une campagne étonnante, atone au départ, avec un objectif qui était incroyable. Ce qu'elle disait, son premier objectif, c'était d'avoir 15 députés. Pour quelqu'un qui a fait 42% au deuxième tour de la présidentielle, c'était quand même très surprenant. Il y a eu d'autres phénomènes assez étonnants dans ces campagnes législatives qui ressemblaient, me semble-t-il, à nul autre pareil auparavant, avec une majorité, un président de la République qui a temporisé.
Nul autre pareil, c'est-à-dire qu'elle était très atone,
c'est-à-dire
qu'elle
était totalement
molle,
atone, totalement oui, atone. Je vous dis, avec à la fois la conjonction d'un président qui a tout fait pour que le débat ne prenne pas, ou du moins très tard, avec une candidate qui était au second tour, donc qui avait des ambitions extrêmement limitées, et avec la NUPES, avec Jean-Luc Mélenchon, disant qu'il fallait l'élire Premier ministre, ce qui là aussi était quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu sous la Ve République. Donc tout ça fait que, bon, c'est pas la seule raison, mais ça participe, je crois, au phénomène de l'abstention aujourd'hui, mais ça n'est pas la seule raison, puisque cette abstention, comme ça a été dit, effectivement, elle se répète et elle s'aggrave d'élection en élection. Il y a un vrai souci en France.
Il y a des gens qui ne votent pas depuis des dizaines d'années. Vraiment, oui. De génération en génération, ils ne votent pas. Ils disent ça ne m'intéresse plus. Ils nous ont trompés tant de fois que ça nous intéresse.
C'est pour ça que ça s'est aggravé. Simplement, faire la comparaison avec les élections législatives des autres pays européens, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'on le sait, dans les autres pays, en Angleterre, en Allemagne, etc., la grande élection, c'est l'élection législative. Le problème de la France, c'est qu'on a une constitution avec à la fois un président de la République,
alors,
une législative.
Charles Leclerc terminé.
Oui, et ben voilà. Et donc, avec l'élection
la dimension du régime
qui suit la présidentielle. Voilà, il y a un système
oui,
un peu
c'est valable, même si
alors,
on compare
Jean-Sébastien
avec les élections présidentielles, l'abstention était beaucoup plus élevée pour l'élection présidentielle en France qu'elle ne l'est dans les élections parlementaires ailleurs.
Juste en quelques mots, Alexandre, si vous pouvez faire court, parce qu'il y a les envoyés spéciaux qui nous attendent, Europe 1 et CNews sur le terrain. Le point important pour vous, c'est quoi? C'est le Rassemblement National, c'est la NUPES, c'est Emmanuel Macron, c'est l'abstention?
Le point important, c'est l'abstention. On a dit qu'on avait une campagne présidentielle nulle, il faut dire ce qui est, pour ce qui est de... Je ne sais pas quel adjectif on va trouver pour la campagne législative. Donc je pense que cette abstention est une abstention politique, paradoxalement, que les gens s'intéressent à la politique. Moi, je le vois tous les jours, j'anime un site de débat, mais ils ne s'y retrouvent plus. Il y a une crise de la représentativité. Et voilà, on est à l'acmé de cette crise-là. Et effectivement, un Conseil national de la refondation, où on va placer des gens qui ne sont pas élus, je ne pense pas que ça va accroître le sentiment de dépossession démocratique. Je pense que les électeurs ont le sentiment de ne plus avoir prise sur leur destin, de ne plus être réellement souverains. Et je crois que tout ça va accroître ce sentiment-là. Donc il y a une forme de sécession de la plèbe, d'une certaine manière. Je dis ça parce que...
À 52%, c'est plus que la plèbe. C'est la moitié des Français.
Non, mais je dis la plèbe là, en référence à ce qui s'était passé sous la Rome antique, où le peuple s'était retiré sur son avantat pour des raisons politiques. C'était une manière de protester. Et je crois que là, c'est pareil. C'est une forme de protestation silencieuse.
On va partir au QG de Renaissance, rejoindre Jacques Serret d'Europe 1 avec Thibault Marcheteau. Jacques, la majorité présidentielle attend les résultats de ce soir avec un peu de fébrilité. La question, c'est est-ce qu'il y aura une majorité pour Emmanuel Macron ?
C'est toute la question. En tout cas, ici, c'est encore relativement calme. Quelques salariés du parti sont arrivés ici pour suivre la soirée électorale, mais pas de cadre, pas de figure du parti pour l'instant. Elisabeth Borne, elle, vous le disiez tout à l'heure, est à l'Élysée. Alors, elle est attendue ici, rue du Rocher, à deux pas de la gare Saint-Lazare, aux alentours de 20h-21h. La question qui se pose dans l'entourage, c'est est-ce qu'elle s'exprimera aux côtés, notamment de Stanislas Guérini, le patron du parti, ou bien est-ce que ce sera une prise de parole très solennelle, seule, face caméra?
retrouver Jacques Serret sur place au QG de Renaissance avec Thibault Marcheteau. Allez, encore un tout petit coup d'œil à ce qui se passe à Paris dans la 15e circonscription où se trouvent Reda Emrabi et Alice Chomy. Reda, c'est un cas unique cette circonscription, la 15e de Paris. Expliquez-nous pourquoi.
Pour plusieurs raisons, Laurence. Déjà parce que depuis 6 mois, il n'y a pas de député dans cette circonscription. La faute à une législative partielle qui avait été annulée et qui avait eu lieu en 2021. Cette législative partielle, elle a opposé Lamia El-Haraj à Daniel Simonet. Et c'est le duel que l'on va suivre ce soir. C'est une véritable primaire à gauche avec d'un côté Daniel Simonet qui a été investi par la NUPES, qui est une proche historique de Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre Lamia El-Haraj qui est dissidente mais soutenue officiellement par le Parti Socialiste. La preuve d'une division au sein même de la NUPES, c'est le seul cas en France. Alors évidemment, on surveillera qui arrivera en tête. En 2021, c'est Lamia El-Haraj qui l'avait emporté. Il faut rappeler ici qu'on est dans une circonscription très ancrée à gauche puisque Jean-Luc Mélenchon avait remporté 47,3% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Bref, c'est un enjeu majeur aussi bien au sein de la NUPES que pour le Parti Socialiste.
Merci beaucoup. Reda Emrabi avec Alice Chomy. C'est intéressant ça aussi, ces frictions à gauche, hein, Louis de Ragnel d'Europe 1. C'est-à-dire qu'il y a des dissensions quand même. Ils vont réussir à être très unis là. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que cette union de la gauche va durer?
Alors c'est la grande question. Pour l'instant, il y a des gens qu'on n'entend absolument pas. Vous savez, dans l'union de la gauche, en fait, donc, il y a plusieurs partis. Il y a les écologistes, il y a le Parti communiste, il y a le Parti socialiste et puis il y a la France insoumise. Donc pour l'instant, c'est motus et bouche cousue. Personne ne parle puisqu'ils font le pari qu'avec cette alliance qui s'appelle donc la NUPES, mais il y a deux écoles, hein, vous savez. Ils font le pari en fait que c'est ça qui permettra à la gauche d'être très puissante à l'Assemblée nationale. Mais on sait bien qu'au lendemain du deuxième tour des élections législatives, le Parti communiste voudra créer son groupe à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste, s'il a plus de 15 députés, voudra également. Tous les partis en fait, qui composent cette formation.
Pour des raisons financières, on va le dire à nos auditeurs et téléspectateurs. Hein.
Pour des raisons politiques aussi, parce que c'est le groupe qui permet de donner une forme d'incarnation. Il y a beaucoup de malgré eux en fait, dans cette NUPES, réellement. C'est-à-dire qu'il y a des candidats de gauche qui, globalement, se taisent sur tous les désaccords qu'ils ont avec le programme de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réellement imposé à tous les candidate de cette formation, son programme. Si on peut rappeler quelques chiffres aussi sur l'actuelle composition de l'Assemblée nationale, parce que c'est
allez-y,
ça dont on parle.
Allez-y, faites-nous un petit portrait
oui,
là, de cette Assemblée.
Alors aujourd'hui, la majorité, donc, la majorité présidentielle, il y a 346 députés, dont 260 députés La République En Marche, 57 Modem, 22 Agir Ensemble. Il y aura des petits nouveaux, forcément, puisqu'il y a le parti d'Édouard Philippe, Horizon, qui a présenté une cinquantaine de candidats. Pour avoir la majorité absolue, pour savoir quand même de quoi on parle, il faut quand même 289 députés. Donc l'enjeu de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir plus de 289 députés. L'enjeu d'Emmanuel Macron, évidemment, c'est également d'avoir plus de 289 députés. Et puis si on parle aussi des autres partis, la France Insoumise, quand même, aujourd'hui, c'est 17 députés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 17, c'est à peine de quoi faire un groupe.
Et le Rassemblement National
7. Voilà. Ouais, donc pour Jean-Luc Mélenchon, l'enjeu, c'est de passer effectivement de 17 à une forme d'impression de masse de cette France qui s'est
Mais ce ne sera pas une impression, si jamais ils arrivent
Ce ne sera pas une impression que s'il reste uni. Mais honnêtement, en coulisses, quand on appelle les uns et les autres, tout le monde voudra reprendre ses œufs à la fin de la partie, ce qui d'ailleurs pose une question de sincérité par rapport à ce qui est vendu aux électeurs.
Un petit mot de Gérard Leclerc sur Jean-Luc Mélenchon, la sincérité de l'alliance.
D'une part, il a quand même, il faut le souligner, on verra les résultats, mais pour l'instant, semble-t-il, il a magnifiquement réussi d'un point de vue tactique, stratégique.
Alors qu'il ne se présente pas, on le rappelle.
Alors qu'au départ, c'est lui qui avait refusé toute idée de candidat unique de la gauche. Il est parti le premier sans s'occuper des autres. Et il a eu cette stratégie qui était quand même très efficace, sous réserve des résultats. Mais enfin, en tout cas, d'après ce que disent les sondages. Ensuite, c'est bien évidemment la réalité qu'il a imposé un programme et que sur un certain nombre de questions aussi importantes que l'Europe, que le communautarisme, si je puis dire, que la gestion économique, etc., il y a des positions qui sont très, très différentes entre le nucléaire, entre les écologistes, les
communistes... La sécurité, les policiers...
Exactement.
Entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, on ne trouve pas beaucoup les points de convergence.
Mais c'est des sujets fondamentaux. Des désaccords qui sont profonds.
Ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est des désaccords sur les choix politiques, mais c'est des désaccords qui pourraient toucher aux valeurs profondes. Vous parliez de la question du communautarisme, de la laïcité, de l'Europe. Pour certains socialistes, c'était presque une religion. Donc c'est étonnant de les voir s'allier dès le premier tour. Et on voit bien que de la part d'une gauche qui a souvent fait la morale à la droite sur le Rassemblement national notamment, qui a longtemps appelé à faire barrage, elle s'allie dès le premier tour. Et donc il n'y a aucun coût social pour le soutien à Jean-Luc Mélenchon, alors que son programme apparaît aujourd'hui extrêmement extrémiste et radical. Donc soit il y a un barrage pour tout le monde. Moi, je suis assez libéral pour penser que c'est le degré zéro en réalité de la politique de faire barrage. Je crois que voilà, même si on est en désaccord avec les candidats, il faut essayer de déconstruire leur programme plutôt que d'être dans un espèce de fonds républicain. Mais si on fait un fonds républicain quelque part, il faut le faire partout. Et la question va sans doute peut-être se poser au deuxième tour. Voilà, ceux qui appelleront à faire, est-ce qu'on pourra faire barrage à la fois contre le Rassemblement national et contre la NUPES, on va voir comment ça. Et si jamais Emmanuel Macron est au deuxième tour face aux uns et face aux autres, est-ce qu'il va dire on fait barrage face aux extrêmes, mais comment il fera quand s'il a besoin des voix de la NUPES? Donc on est dans une configuration très compliquée qui fait peut-être exploser cette idée de fonds républicains.
Retour sur le terrain, dans la circonscription d'Elisabeth Borne, première ministre, 6e circonscription de Calvados, Vire. Alexandre Chauveau d'Europe 1 est sur place avec Michaël Chaillot. Alexandre, le dépouillement vient de se terminer dans les bureaux de vote.
Oui, absolument. On attend les résultats d'une minute à l'autre. Maintenant, le dépouillement qui vient de se terminer à l'intérieur de l'hôtel de ville où a voté ce matin Elisabeth Borne. C'était un petit peu après 11h. Elisabeth Borne qui se présente pour la première fois à une élection et ce en tant que première ministre avec un gros enjeu pour elle puisque en cas d'élimination ce soir, elle devra remettre sa démission ainsi que celle de son gouvernement à Emmanuel Macron. Alors, elle n'est pas présente ici ce soir, Elisabeth Borne. Elle est à Paris où elle est rentrée tout à l'heure. Elle a passé l'après-midi à Matignon avant de se rendre à l'Élysée où elle est en ce moment. Elle s'entretient avec le chef de l'État en cercle fermé. Elle prendra ensuite la parole depuis le QG de Renaissance en tant que chef de la majorité pour commenter les résultats de ce premier tour. Elisabeth Borne qui reviendra enfin ici à Vire tard dans la nuit pour, nous dit-on, remercier ses équipes et surtout, en cas d'une éventuelle qualification au second tour, pouvoir être présente dès demain pour pouvoir attaquer cette campagne du second tour. Tout cela est à conjuguer bien évidemment au conditionnel. 10 candidats sont face à elle ce soir. Certains sont présents ici dans la salle pour prendre connaissance des premières remontées des urnes.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau dans le Calvados à Vire. Charlotte Donnerlas, il y a un vrai risque qu'Elisabeth Borne se fasse battre et donc quitte son poste ou pas?
Je ne sais pas, mais en tout cas,
est-ce que c'est des paris risqués que prennent les 15 ministres en fait, qui se présentent?
C'est un pari, donc par conséquent, il est risqué forcément.
Il y a une petite part de risque.
Il y a un risque qui est posé, mais en revanche, la place que prennent les candidatures des ministres qui sont tout juste nommés par un président qui, lui, a été élu, or les ministres dans ce pays ne sont pas élus, pour moi, ça concourt à rendre absolument incompréhensible cette élection législative. C'est-à-dire que c'est une élection, un coup pour élire un Premier ministre. Dans l'autre partie, c'est pour conforter ou pas des ministres. On ne voit pas le rapport avec la choucroute, enfin pardon. Et donc si lui, Emmanuel Macron, nomme des ministres, alors je comprends bien l'idée de dire il faut que les ministres passent par les urnes. Mais alors c'est une nouveauté, ça sort d'où? Qui a décidé ça? Donc ça concourt à rendre extrêmement flou le but précis de cette élection. Parce que chaque parti, chaque alliance, et le président de la République lui-même a un discours différent sur cette élection législative. À la fin, on en a quasiment oublié qu'on appelait à voter pour des députés qui valideront ou pas la politique des 5 prochaines années.
Là-dessus, Jean-Sébastien Ferjou, un tout petit mot sur ces 15 ministres qui vont chercher l'onction des Français alors qu'ils ont déjà commencé leur travail ministériel et qui vont peut-être tout lâcher du jour au lendemain.
C'est un grand classique de l'histoire de la 5e République. Et pour le coup, le fait que les responsables politiques soient élus paraît un principe démocratique relativement sain. Là où je rejoins ce que dit Charlotte Dornelas, c'est la confusion entre les différents discours, entre l'un qui dit « élisez-moi Premier ministre ». Mais sur ceux qui se présentent, je ne crois pas que Mme Borne soit en danger.
La plus en danger,
en
ouais.
tout cas, les sondages qui
Gérald ont Darmanin, été faits, Attal,
ni M. Darmanin, peut-être Clément Beaune, qui se présente à Paris, lui, est dans une situation plus incertaine. Mais M. Darmanin, Gabriel Attal, tous ces gens-là devraient a priori être élus sans grande difficulté. En revanche, il y aura une autre question qui va se poser ensuite. C'est là où on va voir qui seront les deuxièmes ou les troisièmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande différence entre la NUP
et le Rassemblement national, vraisemblablement. Mais y aura-t-il une aussi grande différence que ça dans les résultats? Parce qu'on peut avoir des gens qui, finalement, n'auront pas tant de millions de voix de suffrages exprimés qui se sont exprimés, justement, et avoir des résultats en siège totalement différents. Alors, vous allez me dire, c'est la logique des institutions. Effectivement, il ne s'agit pas de contester la légitimité en soi du résultat des élections, mais politiquement, ça pourrait être très difficilement soutenable, parce qu'il y a l'espèce de deux poids, deux mesures que soulignait Alexandre Devecchio en matière de barrages et de front républicain, effectivement, et tout simplement avec des Français qui sont beaucoup moins représentés que les autres. Et cette question-là, je ne crois pas que le CNR suffira à la résoudre.
Le CNR, le Conseil national de la Refondation, à ne pas confondre avec le Conseil national de la Résistance. On va juste partir.
Nous n'étions pas sous un quinquennat pétainiste, je
crois. On est d'accord. Du côté de la NUPES, le QG de la NUPES à Paris, Florian Tardif est sur place avec Florian Paume. En ce moment, Jean-Luc Mélenchon visiblement est en train de discuter avec les autres leaders de cette NUPES. La vraie question du soir, c'est Paris réussi ou Paris perdu pour lui, on est d'accord?
Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, Laurence, Jean-Luc Mélenchon a réussi à partir d'une tripartition du paysage politique avec sa personne, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, à une bipolarisation durant cette campagne des élections législatives avec ce duel qu'il a progressivement imposé entre lui et Emmanuel Macron, le leader de la France Insoumise, qui pour l'heure, vous l'avez dit à l'instant, s'entretient avec les autres représentants des partis de gauche qui ont signé cette alliance avec la France Insoumise sous la bannière NUPES. Ils s'entretiennent tous collectivement dans le siège de la France Insoumise et ils vont se diriger juste avant l'annonce des résultats, les premières estimations aux alentours de 20h. Vous y faisiez référence également dans le QG de la NUPES qui se trouve à une cinquantaine, centaine de mètres d'ici. Ils vont tous collectivement prendre la parole les uns après les autres. Bien évidemment, c'est Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui prendra la parole en premier puisque c'est lui qui a forgé cette alliance autour de sa personne durant donc cette campagne des législatives.
Merci beaucoup Florian Tardif sur place devant donc le QG de la France Insoumise avant le déplacement devant le QG de la NUPES. Louis Dragnel d'Europe 1, c'est la vraie question de la soirée. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari ou est-ce qu'il l'a raté? Voilà, c'est clair.
Absolument. Alors bon, il y a beaucoup de cosmétiques quand même autour de ce qu'a annoncé Jean-Luc Mélenchon, parce que pour obtenir une majorité, donc il faut 289 députés et dans toutes les estimations qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment Jean-Luc Mélenchon n'obtenait plus de 289 députés. Donc vous savez, pour pouvoir devenir ou rêver être Premier ministre, il faut essayer de dépasser quand même ce chiffre-là. Aujourd'hui, la question, c'est pour Emmanuel Macron surtout, moi je pense, c'est plus du côté d'Emmanuel Macron que la question se pose. Avec quelle majorité il va gouverner? Est-ce que dans la mesure où au lendemain du deuxième tour des élections législatives, il y aura le début de la campagne présidentielle de 2027, je sais que ça vous paraît très loin.
Vous êtes très en avance, Louis, il est comme toujours.
Mais l'enjeu pour lui, c'est de savoir, est-ce qu'il a une capacité à avoir une majorité stable s'il obtient une majorité, donc pour les prochaines années, pour les prochains mois. Et ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il y aura des majorités d'opportunités, de circonstances pour Emmanuel Macron. C'est un pays qui, le pays...
D'où l'intérêt pour le score des LR, parce qu'ils peuvent faire pointe sur certaines réformes.
Alors ça va être aussi l'enjeu de la survie des LR. Mmh. S'ils veulent survivre, ils n'ont pas intérêt à aller vendre leur âme à La République En Marche ou à Ensemble, pardon. Et puis il y a beaucoup de LR qui ont déjà clarifié la situation. Mmh. Regardez, Damien Abad est déjà au gouvernement. C'est un ancien...
Il n'y a pas tant que ça.
Absolument, vous avez raison. Mais je pense que les LR, s'ils veulent survivre aussi, ils n'ont pas vraiment intérêt à rejoindre Emmanuel Macron, sauf s'ils veulent absolument rentrer au gouvernement.
Alors, il y a un autre leader politique dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'est Éric Zemmour, qui se présente dans la 4e circonscription du Var. Sur place, nous avons Victor Chabert, Gauthier Lebret et Sacha Robin. Victor Chabert d'Europe 1 est avec nous pour l'instant. Éric Zemmour écrit en ce moment son discours. Il va le prononcer dès que les résultats seront connus, Victor ?
Oui, Éric Zemmour est actuellement dans la maison qu'il occupe ici à Cogolin. Il attend les résultats pour écrire son discours, des résultats qui arrivent petit à petit. C'est dans cette circonscription qu'Éric Zemmour a réalisé un de ses meilleurs scores à l'élection présidentielle, 14%. Il ne s'est donc pas présenté ici par hasard. Alors ça ne semble pas avoir beaucoup voté pour l'instant dans le Var. Il fait très beau, vous le voyez. Ça peut être une des raisons. Seulement 39,31% des Varois se sont sont déplacés à 17h. Éric Zemmour lui a voté par procuration car il fait partie de ces candidats qui ne peuvent pas voter pour eux-mêmes car ils se sont présentés ailleurs dans un autre lieu que là où ils sont inscrits sur les listes électorales. Éric Zemmour, lui, est inscrit sur les listes électorales à Paris. Alors c'est ici, sur cette petite place, que va se dérouler cette soirée électorale. Une centaine de personnes sont attendues. Ça arrive petit à petit. Et on est rue nationale ici à Cogolin. Et ce bar s'appelle Chez nous. Ça ne s'invente pas, mais son équipe précise bien que ce n'est qu'une coïncidence.
Merci beaucoup, Victor Chabert. Avec ce pari d'Éric Zemmour, Jean-Sébastien Ferjou, là, pareil, c'est très important pour les 5 ans à venir. Soit il a un, deux ou plus de députés, soit il est condamné à exister autrement. Et ça, c'est pas facile en politique.
Oui, effectivement, mais je crois qu'Éric Zemmour avait choisi cette circonscription-là parce que c'était une des rares circonscriptions où finalement sa théorie de l'addition des voix de la droite pouvant produire des résultats était effectivement vraie, puisque dans le Var, il y avait eu à la fois Éric Zemmour lui-même à la présidentielle avait recueilli un score assez important, le candidat du Rassemblement National aussi, c'est assez peu le cas ailleurs, par exemple, là où vraisemblablement il est inscrit à Paris, c'est une circonscription où il a fait lui-même un très bon score, mais le Rassemblement National était très faible, donc la question de l'addition se posait moins. En revanche, je vous le disais tout à l'heure, peut-être que l'exemple de la NUP finira par poser d'autres questions à droite, et notamment les Républicains, si jamais ils se trouvaient en situation de pivot, si Emmanuel Macron a une majorité absolue avec les alliés de la coalition Ensemble. La question se posera beaucoup moins, les Républicains seront peut-être plus libres de se refonder sur une ligne politique autonome. S'ils sont en rôle de pivot, on risque d'être un peu dans la confusion. Et je crois que la confusion, elle fait partie des moteurs de l'abstention. Si j'ai juste 30 secondes, je veux bien vous raconter une petite histoire. Sur la deuxième circonscription de la Marne, parce qu'il me semble que ça révèle beaucoup, beaucoup de choses aussi sur l'abstention et sur la raison pour laquelle les Français ne se déplacent pas. La deuxième circonscription de la Marne, c'est la circonscription où il y a Reims. C'était l'ancienne circonscription de Mme Vautrin, vous savez, qui a failli être nommée Premier ministre.
Un week-end.
Il y avait une députée sortante, donc de La République En Marche, que personne n'a songé à annoncer qu'elle n'était pas investie. Donc elle a commencé à faire sa campagne. Et puis, au dernier moment, quand on est arrivé au dépôt des candidatures, elle s'est rendue compte qu'une autre avait été investie à sa place, une autre qui venait de chez LR. Et pourquoi avait-elle été investie? Parce que Mme Vautrin est intervenue. Sauf que la candidate LR, elle avait elle-même fait une demande auprès des LR pour être investie.
Et vous nous perdez un peu, Jean-Sébastien, là.
Mais c'est pour ça. Mais justement, Laurent. Non, mais attendez. Et donc, elle avait elle-même demandé à bénéficier de l'investiture.
Je comprends que les gens ne soient pas allés voter.
Non, mais attendez, c'est encore mieux que ça. Les deux candidates qui se présentent l'une contre l'autre ont chacune pris l'étiquette Horizon. Les deux, donc le maire de Reims, qui est lui-même Horizon, est obligé de donner une conférence de presse pour dire qu'il ne soutenait ni l'une ni l'autre. Mais vous voyez bien, c'est très difficile à suivre, mais vous voyez bien que cette espèce de confusion, d'irresponsabilité en réalité des responsables
mais vous
politiques...
Mais vous n'avez pas tort sur le mot irresponsabilité.
Ça explique aussi
et moi, parce qu'on en revient à ce chiffre de l'abstention, moi, qui me fait vraiment mal au cœur, 52,5% d'abstention estimée à 20h, c'est extrêmement lourd. C'est l'éléphant dans la pièce, Alexandre Devecchio.
Oui, bien sûr, et ça va poser la question, pardonnez-moi, de la légitimité. Alors oui, de fait, ceux qui seront élus, mais quel sera leur poids politique et leur capacité à gouverner? Ce sera une vraie question. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, et c'est un des problèmes dans ce pays, ça pose quand même la question de l'ambiguïté de LR, parce que vous disiez tout à l'heure, très peu ont rejoint officiellement Emmanuel Macron, mais beaucoup profitent de ne pas avoir de LREM à côté d'eux. Il y a des arrangements en sous-main, et une fois qu'ils seront élus, ceux qui auront glissé leur bulletin pour LR ne sauront pas tout à fait pour qui ils ont glissé leur bulletin et est-ce qu'ils vont soutenir ou pas la majorité si c'est LREM, est-ce qu'ils vont s'y opposer. Donc ça rend aussi le scrutin particulièrement illisible.
Il est 19h30 si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à tous et à tous. On vit cette soirée spéciale, l'élection législative 2022, avec beaucoup d'interrogations et déjà un fait que nous déplorons mais qui est comme cela, Gérard Leclerc, cette abstention. Plus d'un Français sur deux s'est abstenu et ça va évidemment avoir un impact sur le second tour des législatives.
Oui, bien évidemment. Et ça souligne une fois encore effectivement le malaise démocratique dans ce pays. Et ça met pour cette fois-ci de façon évidente la nécessité absolue de changer le mode de scrutin. On ne peut plus continuer à avoir comme ça un tel écart entre la représentation, la réalité politique du pays et donc ce qu'il y a à l'Assemblée. Donc il faut, je pense, vraiment aller clairement vers une élection proportionnelle. Il faut aussi peut-être envisager...
Proportionnelle, c'est ça qui peut...
Ensuite, il y a différents types de proportionnelles. Mais maintenant, l'écart est tellement grand entre la réalité politique du pays et sa représentation à l'Assemblée qu'il faut, me semble-t-il, effectivement, ça fait des années, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ça fait quand même des années qu'on en parle, ça fait des années qu'après élection, élection après élection, il y a de plus en plus d'attention. Je pense que maintenant, il faut véritablement y aller.
Si je peux alors, mais le problème,
attendez, pas tous en même temps. Alexandre Devecchio, rapidement,
que les Français pourraient. Il y a un moyen qui est le référendum aussi, de redonner une parole directe au peuple sur des questions qui les intéressent. Je sais que ça fait très peur à une partie des élites politiques et médiatiques, mais c'est dans la Constitution et c'est à jeu égal.
Un dernier mot là-dessus sur le référendum.
Le souci, c'est que chaque fois qu'il y a eu des référendums qui ont été faits en France, il y a eu justement une participation encore plus faible que dans les élections.
C'est pas vrai. Sauf le référendum européen.
Sauf le référendum européen.
Et on s'est assis sur le résultat précisément.
Et je pense d'autres, comme vous le savez.
Je pense que la crise de la démocratie, c'était un vrai tournant, justement, en 2005, et que depuis, il y a un problème démocratique.
Je pense qu'il avait commencé un tout petit peu avant 2005. Oui. Mais ça fait partie du décor.
Ça fait partie.
Vous avez raison.
Bien sûr.
Allez, dernier mot, Gérard.
Deux mots. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que l'élection présidentielle a été nulle. Ce n'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de débats. On a vu d'ailleurs les thématiques qui ont évolué au fil de la campagne. Deuxièmement, il faut quand même dire, on verra, ce qu'il faut être prudent avant les résultats, mais que qui aurait dit il y a trois mois que la NUPES allait devenir, que la gauche allait remonter et devenir le principal opposant d'Emmanuel Macron. Personne, objectivement, personne. Donc, il s'est passé des choses. Et donc, voilà, il faut quand même le souligner.
Le terrain, l'Élysée, où se trouve Samy Sfaxi, Olivier Gangloff. Samy, donc Emmanuel Macron est-il arrivé ou pas?
Ah oui, il est arrivé déjà, Laurence, depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure. Il est rentré par une petite porte, alors pas dérobée, mais on va dire, il n'est pas rentré par l'entrée principale. Il ne voulait pas passer devant les caméras des journalistes. Il est entré par une autre entrée de l'Élysée. Et il est entouré de ses plus proches conseillers et collaborateurs, à commencer par Elisabeth Borne. La première ministre est actuellement à l'Élysée avec le président de la République. Ils sont en train de scruter les premières remontées qui parviennent à l'Élysée. Il y a aussi Christophe Castaner qui est présent. Christophe Castaner, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, anciennement La République En Marche, qui doit donner les différents éléments de langage aux différents ministres qui seront sur les plateaux télé toute la soirée. Ils sont en train d'organiser tout ça. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, bien sûr qu'il est aux côtés d'Emmanuel Macron ce soir. Olivia Grégoire, mais aussi Gabriel Attal. Voilà le premier cercle du président qui est présent ce soir à l'Élysée. L'enjeu, il est de taille. Quid des 15 ministres sur les 28 membres du gouvernement? Quels vont être les résultats dans leur circonscription? Réponse maintenant dans un peu moins d'une demi-heure, mais vous le disiez en plateau, l'enjeu, il est considérable. Et juste un petit mot, Laurence, vous parliez de crise de la démocratie, et c'est vrai que la semaine dernière, le gouvernement parlait d'essoufflement démocratique et avait annoncé, vous savez, ce fameux Conseil national de la refondation. On ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans, mais voilà, c'est en tout cas pris en considération par le gouvernement, semble-t-il.
Merci beaucoup, Samy Sfaxi, avec Olivier Gangloff. Vous parliez des ministres. Il y en a un ex-ministre qui se présente dans le Loiret, c'est Jean-Michel Blanquer. William Molinier d'Europe 1 est sur place avec Jean-Michel Decazes. Est-ce que les bulletins sont en train d'être dépouillés, William? Et quelle est l'atmosphère là où vous vous trouvez?
Oui, les bulletins, les bureaux de vote sont fermés ici depuis 18h. Effectivement, les premiers bulletins sont en train d'être dépouillés. Enjeu très important pour Jean-Michel Blanquer ici dans la 4e circonscription du Loiret. Il joue en quelque sorte la survie de sa présence politique sur la scène nationale. Première campagne électorale à son nom. Première fois qu'il est confronté aux urnes après ses 5 ans au ministère de l'Éducation nationale. Et donc Jean-Michel Blanquer espère ici à Montargis poursuivre sa vie politique. Autre enjeu, celui pour la droite. C'est un enjeu important parce que cela fait 20 ans que la droite ici est représentée à l'Assemblée nationale avec le député sortant Jean-Pierre Door qui n'est pas candidat à sa réélection. Au total, cela fait 60 ans que les électeurs élisent ici un député de droite.
Merci beaucoup. William Molinier, sur place donc dans le Loiret. Louis de Ragnel d'Europe 1, crise de la démocratie, on disait. On a ces ministres, ces anciens ministres, les ministres actuels qui se présentent. Est-ce que c'est une façon de... C'est du courage ou pas, Ça peut inciter les Français à aller voter ou pas ?
Alors, pour eux, oui, il y a un enjeu parce qu'effectivement, ils redeviennent à portée de baffe des Français. Donc oui, pour eux, il y a une forme de difficulté. Et en même temps, c'est ce qui leur permet de continuer à avoir une existence politique. Donc du courage, oui, personnel. Après, je ne suis pas sûr que c'est ça qui leur permette d'avoir forcément les bons capteurs avec le terrain, comme on voit que forcément ce scrutin intéresse moins. Je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec ce que disait Alexandre Devecchio sur remettre des référendums, sur les idées qu'on pourrait trouver pour que les Français trouvent à nouveau de l'intérêt dans la vie politique. En fait, je pense qu'il faut revenir à l'esprit initial de la Ve République qui était un bijou, qui était vraiment un bijou et qu'on a cessé de détricoter. Et au fur et à mesure qu'on voulait rapprocher les Français de la politique, eh bien, en fait, on a changé la Constitution. Et je pense que, paradoxalement, c'est ce qui les a éloignés. Je pense notamment à la fin du cumul des mandats, ce qui est pompeusement, abusivement, je trouve.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être maire et député ou conseiller régional et député.
Absolument. Et moi, je pense, par exemple, aujourd'hui, ça devrait être quasiment l'inverse. On devrait être impérativement élu avec, pas forcément un grand mandat qui occupe toute l'attention, mais il faudrait qu'on puisse être au moins maire adjoint, conseiller municipal dans une commune et ensuite pouvoir être député. Parce que dès que vous retournez dans votre mairie, vous allez voir électeurs vous administrer. Eh bien, je peux vous dire que là, pour le coup, les remontées, vous les avez en pleine figure. Et donc, je pense que ça, c'était quelque chose qui était assez sain. Et malheureusement, c'en est terminé pour ce qu'on appelait donc, le cumul des mandats. Ça permettait avant, il y avait plein de choses.
Il n'a pas l'air d'avoir envie de le faire à nouveau, Emmanuel
malheureusement,
Macron.
Non.
On est bien d'accord.
Il y avait la réserve parlementaire qui a été très critiquée, qui permettait quand même à un député d'obtenir des subventions.
C'était des sous, ça.
Absolument. Mais ça permet de dire, regardez ce que il y a un besoin de, je sais pas, de rénovation d'un stade, d'un gymnase, financement d'une association. Ouais. Eh bien, c'est le député qui allait se battre ou qui n'allait pas se battre pour obtenir ces subventions, ces montants, ces sommes d'argent. Et du coup, je pense que tout ça, en fait, a déconnecté de fait les députés de leurs administrés. Il suffit de voir, regardez un déplacement ministériel. Comment ça fonctionne auparavant? Le député, c'est celui qui avait le plus de place. Aujourd'hui, les députés sont en arrière-plan. Ce qui compte le plus quand le président, par exemple, de la République se déplace, c'est de rencontrer le maire. Ça montre qu'en fait, le pouvoir du député est vraiment considéré comme un pouvoir en retrait. Et tout le pouvoir repose maintenant sur les maires. Et je pense que c'est ça qui a participé à éloigner en fait les Français de leurs élus, avec des élus qui, du coup, de fait, en plus, sont très très sollicités tout le temps pour voter. Vous savez, on parlait des députés Playmobil. Ils sont appelés tout le temps en séance, le jour, la nuit. Ils peuvent plus tellement aller en circonscription. Et du coup, c'est très compliqué aussi pour eux, si on peut prendre un tout petit peu leur défense, d'expliquer ce qu'ils font en fait pour changer le quotidien de leurs administrés à une échelle très locale. Et ensuite, il y a un dernier élément,
très belle analyse de Louis de Ragnel en trois points.
Non, je termine par là. C'est que je pense que la transparence, le financement de la vie politique est quelque chose d'assez sain. Mais je pense paradoxalement qu'on a du coup fait fuir un certain nombre de députés qui avaient des aspérités, qui avaient une autre activité à côté.
Je ne reviendra pas en arrière, Louis. Vous avez vu le nombre d'affaires qu'il y a ?
Mais je sais bien, mais il y en a aussi. Mais Laurence, il y en a aussi avec des parlementaires très propres sur eux. Bien sûr.
Moins.
Mais bien sûr que si. Je termine simplement, Laurence, d'un mot, et vraiment, j'ai terminé, c'est la dardéder. C'est que du coup, en fait, on a des profils qui sont beaucoup plus aseptisés. On a des profils de parlementaires qui font très, très attention à tout, et donc avec moins de couleurs, moins de.
Et qui ne donnent pas envie aux électeurs.
Peut-être moins d'humanité à l'égard des électeurs.
Charlotte Dornelas.
Mais c'est surtout
que. Bien vous entendre.
La question qui se pose à chaque veille ou chaque jour d'élection, c'est à quoi sert. Mon bulletin de vote. Et la question, honnêtement...
Il y a 52% des Français qui ont répondu. Hein.
Mais oui, mais c'est de plus en plus difficile d'y répondre. Alors là, en l'occurrence, ça fait d'autant plus mal au cœur que le législateur est précisément peut-être celui sur lequel on devrait pouvoir le plus compter pour changer la loi et contraindre tel ou tel. Mais vous regardez la vie politique, même ces derniers temps, on a sans cesse l'impression que le pouvoir n'est pas là où on croit. C'est-à-dire Emmanuel Macron, reprenons la question de la proportionnelle. Emmanuel Macron fait son alliance avec son entente avec François Bayrou il y a 5 ans sur ce point précis, mettre en place la proportionnelle. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on nous explique, c'est l'affaire Benalla et puis ça passe au Sénat et puis le Sénat bloque. Donc, le président de la République fait une alliance. Il est élu. Mmh. Il fait une alliance avec François Bayrou. Il dit, vous aurez la proportionnelle. Et en fait, c'est pas possible. Vous prenez un autre sujet et on vous dit, ah bah oui, mais c'est pas possible parce qu'il y a la Commission européenne qui a bloqué. Pardon, en quel honneur ? Pourquoi ? Oui, mais si, parce qu'en fait, les traités, vous comprenez, vous avez voté pour des gens qui ont voté pour les traités. Bon, c'est compliqué. Ensuite, on vous dit sur la sécurité, les rodéos. prenons cet exemple qui nous est revenu très récemment, sur la question des rodéos. Et là, on vous dit, ben oui, mais en fait, judiciairement, vous ne pouvez pas, puisque la question du droit de propriété, donc devant la justice, la décision est cassée. Et à la fin, vous vous dites, à quoi sert de voter pour des gens qui, systématiquement, n'ont pas le pouvoir sur des points précis qu'on est capable d'identifier? Et cette question-là, il serait quand même temps aussi de la résoudre. Et quand je dis le législateur est précisément celui qui pourrait contraindre tous ces pouvoirs-là pour rendre le pouvoir aux hommes politiques que l'on élit, à la fin, on nous explique, on nous fait toute une campagne sans expliquer ce qu'est vraiment un député et en faisant des campagnes alternatives. Et c'est plutôt ce que je voulais dire tout à l'heure, parce qu'il me semble que quand on dit Elisabeth Borne, c'est une tradition, toujours les ministres, il faut qu'ils soient élus. Enfin, dans le même temps, si je puis me permettre, Emmanuel Macron nous annonce un Conseil national de la refondation avec personne qui est élu. Et là, il n'y a aucune tradition et ça ne gêne personne.
Et c'est une façon de contourner complètement le Parlement.
Ni tradition, ni élection.
Ce sera le législateur en dernier ressort qui continuera de voter les textes. En fait, on a un exemple sur l'expérimentation du CNR, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Vous écoutez à la fois ceux qui ont été favorables à cette Convention citoyenne pour le climat et les détracteurs. En fait, tout le monde est d'accord. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas servi à grand-chose.
On continue le débat dans un instant,
Jean-Sébastien. Et donc, ça crée plus d'énervement politique qu'autre
chose. J'aimerais juste qu'on rejoigne Jeanne Cancard de CNews au QG de la République En Marche. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça ou ça a été rebaptisé Ensemble. Pour Renaissance.
Renaissance.
Ensemble, c'est le truc au-dessus,
Louis. Absolument.
Jeanne Cancard, c'est la holding, voilà. Jeanne Cancard, vous êtes devant ce QG, en tout cas, où Elisabeth Borne doit arriver dans quelques instants, c'est cela ?
Oui, Laurence, on est à l'intérieur du QG. Elisabeth Borne est attendue ici aux alentours de 20h30. Elle sera accueillie par Stanislas Guérini pour s'exprimer, puisqu'elle est évidemment première ministre, mais aussi chef de la majorité sortante. Et c'est à ce titre qu'elle prendra la parole tout à l'heure ici au QG, dans le 8e arrondissement de la capitale. Plus tôt dans la journée, Elisabeth Borne est allée voter à Vire, dans la 6e circonscription du Calvados, où elle est candidate. Elle a choisi cette circonscription pour ses attaches familiales. C'est aussi un territoire où Emmanuel Macron était arrivé largement en tête, avec plus de 56% des voix. C'est ce soir donc un double enjeu pour Elisabeth Borne, pour sa première élection, évidemment en tant que chef de la majorité, mais surtout un enjeu aussi personnel en tant que Premier ministre pour parvenir à conserver son poste. En ce moment, elle est à Matignon, puis elle doit se rendre à l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron et discuter des résultats ensemble avant de venir ici au QG de Renaissance pour prendre la parole face à la presse.
Merci beaucoup, Jeanne Cancard. Que de conciliabules ce soir, conciliabules politiques du côté de La République En Marche et de ses alliés, du côté de la NUPES entre Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aussi, du côté du Rassemblement National, où là, il n'y a pas d'alliés, mais il y a sans doute aussi des conciliabules. Et puis à la droite, les Républicains, tous ces scores qu'il va falloir scruter de très près. Un tout petit mot, Gérard Leclerc, sur ce qu'on évoquait, cette 5e République qu'il faut peut-être rénover.
Je trouve étonnant que tout le monde tombe comme ça sur le Conseil national de la refondation. Attendons de voir déjà ce que ça va être. C'est quand même assez étonnant. Il y a un malaise démocratique, tout le monde le reconnaît. Un malaise démocratique que l'Assemblée seule, semble-t-il, ne pourra pas résoudre. Donc, moi, j'attends de voir. Oui, on est dans une période, ça fait élection après élection, ça se confirme. Il y a de plus en plus d'abstention. Il y a des mouvements d'extrémisme qui se développe, etc. C'est pas forcément une mauvaise idée de d'essayer une nouvelle instance avec la voix des politiques.
Mais alors, attendez, pas tous en même temps.
Je sais pas, peut-être que ce sera l'arrivée, peut-être qu'à l'arrivée, ce sera effectivement nul, il n'en sortira rien, tout ce que vous voulez. Simplement, avant même que ça ait eu lieu, comment ça va dire c'est nul ?
Gérard Leclerc, assez, je pense à l'essentiel. L'essentiel, c'est la revalorisation du mandat de député.
Oui, mais je suis pas sûr.
On commence pas par le début. C'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité.
C'est un artifice, le CNR, c'est comme la Convention citoyenne pour ne pas
attendre. Démarrer. La priorité des Français,
quelle prérogative ?
Hélas, la priorité des Français pour l'instant, ce n'est pas ça. C'est clairement, semble-t-il, le pouvoir d'achat. Mais là aussi, si Jean-Luc Mélenchon a réussi son coup, semble-t-il, en tout cas...
Mais sauf que Gérard Leclerc, ça ne veut rien dire. Parce que c'est
alors, Jean-Sébastien Ferjou interrompt Gérard
Leclerc. Ça ne veut rien dire dans le sens où, oui, tout le monde est confronté à des problématiques de pouvoir d'achat. Mais derrière, la question, c'est la méthode. Ouais. C'est pas juste agiter un petit drapeau pouvoir d'achat. C'est à quoi on croit pour le pouvoir d'achat. Et la crise démocratique française, à mon sens, elle a un double niveau. Elle est au niveau, justement, de la confusion idéologique généralisée. Avant, le monde était plus simple. On était, disons, à grande ligne libérale, où on pouvait être social-démocrate ou communiste, peut-être. Et on faisait référence à ces modèles-là. On savait, on avait un chemin qui était préinscrit. Là, il n'y a plus de chemin préinscrit. Et c'est là où, justement, la confusion des partis est inquiétante, parce que rien n'est expliqué clairement aux partis. Et la deuxième couche, de crise, c'est la crise des institutions. Moi, je veux bien qu'on crée des nouveaux bidules, mais il y a déjà le Conseil économique, social et environnemental. Il y en a pas seulement au niveau national, il y en a dans chaque région. Il y en a même dans un certain nombre.
C'est pas le Conseil économique. Non, mais on rajoute des structures aux structures qui existent.
Juste pour aller au
Attendez, si vous parlez en même temps aux auditeurs et nos téléspectateurs,
c'est le rôle du Parlement. Il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs en France. Les députés ne sont pas là pour voter la loi. Ça fait très longtemps, en tout cas pour l'écrire, ça fait très longtemps qu'ils n'écrivent plus la loi, à la fois parce que l'essentiel du droit français est de la transposition de droit européen, et parce que de toute façon, c'est le gouvernement qui écrit les textes de loi.
C'est la même chose dans les autres pays européens. Il n'y a pas les mêmes conséquences.
Pardon,
non, mais allez, un dernier mot, parce que c'est hyper technique.
Si vous avez écouté l'argument jusqu'au bout. Là où les parlementaires ont un rôle, c'est dans le contrôle de l'action de l'exécutif. Et c'est là où il y a un défaut de culture démocratique française. Pour le coup, je suis d'accord avec vous. Oui, la loi, c'est un peu la même chose ailleurs. Je ne conteste pas ça. Je ne vous dis pas qu'il faut que ce soit les députés qui l'écrivent. Je vous dis, en revanche, les députés devraient jouer leur rôle de contrôle de l'action de l'exécutif. Et ça n'est plus le cas. Les projets de loi de finances, je vais vous dire, mais on est dans l'insincérité budgétaire absolue. Oui, mais à partir du moment où on vous demande de voter pour des gens qui, concrètement, ne rééquilibrent pas les pouvoirs et n'ont pas de pouvoir eux-mêmes,
c'est bien.
À quoi bon ?
Mais en même temps, moi, je vous rappelle que les préoccupations des Français, ce n'est pas tout à fait le projet de loi de finances.
Non, mais on est
pouvoir d'achat, sécurité, santé, environnement. Et je suis, j'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup parlé tout au long de cette
soirée. C'est la traduction démocratique. En fait, le problème, c'est que, effectivement, vous parlez de ces
préoccupations des Français. Moi, je parle des vraies préoccupations des Français. Ils ont l'impression qu'on ne les a pas évoquées pendant cette campagne.
Ils ont l'impression que ce n'est pas transformé ensuite à l'Assemblée nationale, pour les raisons que vous évoquiez précisément à l'instant.
Ils n'y croient
plus. C'est ça le problème. Mais oui, je sais.
Ils n'y croient plus. Et ça, c'est un désastre. Et vraiment, je le dis.
Mais c'est pas avec la proportionnelle. C'est pas avec. Non, mais je crois vraiment
pas. C'est pas forcément le référendum qui va être la baguette magique à tout.
Non, mais bien sûr, mais c'est un ensemble.
Allez, il est presque 17h, 19h48. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. On a un plateau qui est en pleine forme. On a des envoyés spéciaux Europe 1 et CNews qui sont partout, déployés à l'Elysée, à Hénin-Beaumont, aux côtés de Marine Le Pen, au QG Renaissance, du côté de la NUPES, de Jean-Luc Mélenchon. On voit nos envoyés spéciaux du côté aussi de Montargis, d'Oyonnax, où Damien Abad se présente, Marseille. Là, c'est Manuel Bompard, le dauphin de Jean-Luc Mélenchon, qui se présente. Voilà pour les envoyés spéciaux Europe 1 et CNews. On va peut-être partir du côté de l'Elysée, Samy Sfaxi, avec Olivier Gangloff. Samy, je ne sais pas si vous m'entendez. Le président est arrivé, il a tous ses proches autour de lui, et puis les premiers résultats tombent. Là, évidemment, il doit se dire, s'inquiéter, se réjouir, évidemment, en fonction des résultats.
Aussi, eh bien, c'est que Elisabeth Borne a quitté l'Elysée. Elle est en direction maintenant du QG de Renaissance pour prendre la parole justement en tant que chef de la majorité.
Pas très très bien, et on va essayer de rétablir la liaison dans un instant et de voir effectivement ce que vous nous dites sur cette évidemment Emmanuel Macron qui attend les résultats avec intérêt. Alexandre Vecchio, vous voulez rajouter quelque chose sur à la fois le débat qu'on avait et puis sur le fait que les Français ont le sentiment qu'on n'a pas parlé de leurs problèmes pendant cette campagne législative. Moi, c'est ça qui me frappe.
Oui, et ils ont peut-être le sentiment que la clé n'est plus chez les politiques ou que les politiques sont dépossédés du pouvoir. Et Charlotte Dornelas le disait très bien. Vous voulez régler telle ou telle question, oui, mais c'est pas dans les traités européens. Tel autre, tel juge vous dira là, on peut pas vous régler le problème d'insécurité en bas de chez vous parce que légalement, c'est pas possible. Et c'est là où je trouve que le CNR nouvelle version risque d'en rajouter, puisque là, on risque de dire ah, mais le CNR a mis son droit de veto ou je ne sais quoi, alors qu'il n'a pas de légitimité pour dire et faire la loi. Donc, je suis désolé de rajouter là-dessus. Et j'ajoute que le vrai CNR, tous les courants politiques étaient représentés. On a un problème à l'Assemblée nationale, c'est par exemple que le Rassemblement national, qui est quand même arrivé deuxième de cette élection, jusqu'ici n'avait pas de groupe. Et dans le Conseil national de la Résistance, je suis désolé, il y avait les communistes, qui à l'époque étaient quand même vus comme des extrémistes infréquentables, et il y avait aussi certains nationalistes.
C'était un vrai
mouvement d'union nationale. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de faire une union nationale réelle.
Oui, Samy Sfaxi est là. Allez-y, Samy, vous êtes à l'Élysée.
Oui, écoutez, ce que je vous disais, Laurent, c'est que Elisabeth Borne, la première ministre, a quitté l'Elysée. Elle a scruté les premières remontées assez fiables auprès du président de la République. Elle va donc maintenant prendre la direction de la rue du Rocher, là où il y a le QG de Renaissance, anciennement La République En Marche. Elle va s'exprimer là-bas en tant que chef de la majorité et aussi candidate dans le Calvados. Et puis, vous savez, il y avait Christophe Castaner qui était à l'Elysée avec le président de la République pour dispatcher les différents éléments éléments de langage qu'il va falloir tenir sur les différents plateaux télé. Gabriel Attal aussi était présent, mais c'est une soirée très politique pour le président de la République qui, lui, eh bien, ne s'exprimera pas. En revanche, il y a un enjeu énorme autour de ce premier tour et il va scruter circonscription par circonscription ce qui a été, mais aussi ce qui n'aura pas été, bien sûr.
Merci beaucoup, Samy Sfaxi. À l'Elysée, Arthur Delaborde est du côté de la Fabrique, la soirée de Jean-Luc Mélenchon. On attend toujours Jean-Luc Mélenchon. Arthur, c'est bien cela?
S'exprimer ici aux alentours de 20h30. Élisez-moi à Matignon, vous le savez, c'est le slogan répété par Jean-Luc Mélenchon tout au long de la campagne. Pour réussir son pari et imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, sa NUPES doit obtenir 289 sièges minimum. On sait aussi que les différentes composantes de l'Alliance de gauche jouent gros ce soir. Elles seront d'ailleurs représentées à la tribune avec notamment Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui est arrivé il y a quelques secondes et qui doit s'exprimer, tout comme Yann Brossat pour le Parti communiste ou encore le secrétaire national du PS, Olivier Faure, qui lui devrait intervenir à distance des différentes composantes de la NUPES qui jouent gros et qui attendent donc peut-être d'en savoir plus ce soir sur une éventuelle possibilité de constitution d'un groupe parlementaire en obtenant au moins 15 députés chacun.
Arthur Delaborde d'Europe 1 avec Florian Paume, cette soirée qu'on va suivre évidemment avec Jean-Luc Mélenchon, la vraie force d'opposition, point d'interrogation. Résultat à suivre dans 8 minutes pile sur Europe 1 et sur CNews. On verra effectivement si Jean-Luc Mélenchon a réussi ce pari de se positionner comme le premier opposant à Emmanuel Macron, Louis de Ragnel, après une présidentielle où il n'était pas au second tour quand même, on le rappelle, et puis surtout d'éclipser complètement Marine Le Pen du paysage politique.
Ben, ils ont fait une stratégie totalement inverse. Marine Le Pen a commencé par prendre des vacances et puis s'est dit que les élections législatives se feront un peu toutes seules. Et puis au dernier moment, elle s'est un peu réveillée. Au même moment même, d'ailleurs, au même moment qu'Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, dès le début, il a cranté le sujet en expliquant on a une possibilité, en fait, quasiment d'annuler le résultat de l'élection présidentielle. On peut prendre le pouvoir. Et donc, c'est un coup de génie incroyable d'avoir réussi à faire croire ça. On verra ensuite si ça se traduit dans les urnes. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que toute la campagne présidentielle a été occupée par ça. Emmanuel Macron, de son côté, l'a laissé un peu prospérer, prendre toute la place. Et puis Emmanuel Macron lui-même, au dernier moment, s'est un peu réveillé. Donc il s'est réveillé à peu près 10 jours avec une série de déplacements et notamment un dernier déplacement dans le Tarn. C'était son dernier déplacement de campagne, justement sur les questions de sécurité, où il a essayé, et c'est là où Emmanuel Macron aussi a été relativement habile, il a essayé d'expliquer, regardez, attention, le chiffon rouge, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est quasiment le retour des chars à Paris. Donc,
c'était la une du JDD aujourd'hui.
Absolue.
Journal du dimanche.
Ah ben j'avais pas fait le lien avec ça. Mais, donc attention danger, il y a Jean-Luc Mélenchon et en gros, moi, Emmanuel Macron, je suis le seul qui permet d'éviter ce danger démocratique. Et donc le message, il est clairement adressé en fait à toutes les composantes de droite et de centre-droit, à tous ces électeurs-là, pour leur dire surtout, votez utile dès le premier tour, votez pour les candidats à La République En Marche, parce que sinon, voilà, le risque, c'est
ça
le
ça
péril rouge.
Chose, hein. Ça rappelle le scénario de l'élection.
C'est exactement la logique inversée par rapport à ce qu'il a fait avec Marine Le Pen.
Voilà, c'est Jean-Luc
en
Mélenchon.
En séduisant d'abord les
Marine
électeurs
Le Pen,
de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, pendant l'entre-deux-tours. Et tout d'un coup, ces électeurs, eh bien, il n'en veut plus du tout. Il veut à nouveau se tourner vers les électeurs de droite.
Il y a une logique.
Donc je pense que ça participe aussi à
la confusion,
à l'assitude des Français.
Il y a une logique. Et après tout, Emmanuel Macron a bien le droit de dire ce qu'il souhaite de Jean-Luc Mélenchon. Ou en tout cas, d'essayer d'en convaincre les Français de la même manière que Jean-Luc Mélenchon explique qu'Emmanuel Macron, c'est, je sais pas quoi, l'ultralibéralisme fou et qu'on va tous mourir dans l'atroce souffrance. Bref. Et pour le coup, pardon, sur le pouvoir d'achat, il me semble que s'il y a une campagne qu'on a parlé, quand même, la NUPS en a parlé, ça peut être des solutions qu'on ne partage pas.
Marine Le Pen aussi, il y en a beaucoup.
Voilà, les autres en ont plus parlé sous forme de chèque que forme de logique structurelle, disons. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la limite, effectivement, de l'exercice d'Emmanuel Macron, c'est le cynisme du vote utile. C'est-à-dire, c'est une chose de miser sur le vote utile pour dire attention, tel ou tel candidat représente un danger démocratique ou tel candidat n'est pas compétent. Pourquoi pas ? Ça peut être soutenu à un certain degré. En revanche, se faire élire sans dire ce sur quoi vous voulez que les Français se prononcent, ça, c'est un problème démocratique. Parce que si vous avez compris quelle est la ligne d'Emmanuel Macron en matière de sécurité, je veux bien que vous me l'expliquiez. Si vous avez compris en matière d'éducation quelle est la ligne qu'entend poursuivre Emmanuel Macron, oui, mais quand même, dans une démocratie, peut-être que l'abstention, ça se joue sur des trucs aussi cons que ça, hein, pardon d'être trivial, mais savoir pourquoi on vote, Laurence, dans une démocratie, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui n'est pas tout à fait un détail.
Un dernier petit tour avant 20h du côté d'Hénin-Beaumont où Marine Le Pen se présente. 11e circonscription du Pas-de-Calais. Élodie Huchard, vous êtes sur place avec Charles Baget. Et Marine Le Pen, évidemment, favorite dans cette circonscription.
Attention. Oui, Laurence, il y a quelques minutes, vous étiez en train de parler de conciliabules et je peux vous dire que depuis 18h, il y a eu beaucoup de conciliabules à la mairie d'Hénin-Beaumont. Évidemment, parce que Marine Le Pen est la candidate sortante de cette circonscription, il y avait un fort enjeu autour de la participation. On a un petit peu plus voté à Hénin-Beaumont que sur la moyenne nationale. Et puis surtout, Marine Le Pen, elle regarde aussi les résultats qui remontent de toute la France parce qu'évidemment, elle a un œil national. Et puis d'ici quelques minutes, Marine Le Pen va arriver ici. En réalité, déjà, les militants sont en train de s'installer. On leur avait demandé de patienter tranquillement au buffet. Ils sont en train de s'installer juste derrière moi. Marine Le Pen, qui ne devrait pas tarder, prendre d'abord le temps de saluer ses militants. Ensuite, sa prise de parole est annoncée aux alentours de 20h30, 20h45. Pour la suite de la soirée, Laurence, eh bien, tout dépendra du résultat. Il y a une autre salle pas très loin de l'endroit où l'on se trouve, où sont aussi d'autres militants qui attendent les résultats et qui espèrent apercevoir Marine Le Pen dans la soirée.
Merci beaucoup Élodie Huchard et Charles Baget. Ne vous inquiétez pas, nous ne donnerons pas les résultats avant 20h. Nous sommes des gens très sérieux. Un tout petit mot sur Marine Le Pen, peut-être Charlotte Dornelas. Très important aussi ce qui va se passer ce soir pour elle, pour le Rassemblement National. Elle n'en est plus la présidente. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer après les législatives en réalité.
Mais c'est très compliqué. Enfin, on espère pour eux que ça se passera après les législatives parce que ce qui est sûr, c'est que ça ne s'est pas passé avant. Quoi. Donc, non mais franchement, elle est arrivée au second tour d'une élection présidentielle où, alors en revanche, ces derniers temps, on l'a donnée morte 15 fois depuis 2017. Au début de la campagne, l'arrivée d'Éric Zemmour a tout chamboulé. Tout le monde s'est dit, de toute façon, il va prendre la place, sa place à elle. Elle est arrivée au second tour comme, finalement, c'était prévu initialement, avec un score qu'elle a augmenté. Et en effet, elle est partie en vacances au moment où Jean-Luc Mélenchon a activé sa stratégie assez pertinente, on va dire, pour ses législatives, où il était seul à faire campagne d'une part, mais où surtout il a réussi à poser une alliance, parce que le fait de faire campagne c'est une chose, il a réussi à imposer une alliance, et bon, moi je veux bien qu'on insiste sur toutes les raisons pour lesquelles cette alliance ne devrait pas se faire, mais on peut juste constater simplement que cette alliance se fait et qu'il y a donc, entre tous les gens qui ont signé cette alliance, au minimum une vision de la société pour les 5 ans à venir, et une vision de l'opposition au macronisme qui les rassemble. Alors peut-être que ça se cassera dans la foulée, en attendant ils auront gagné, ils auront des groupes à l'Assemblée, et là Marine Le Pen, elle devra répondre à cette question, puisque, comme les autres d'ailleurs acteurs des droites qui sont en présence, ça a été un refus catégorique, notamment sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'âge de la retraite. Marine Le Pen a dit « Je ne peux pas faire une alliance avec quiconque, puisque sur l'âge de la retraite, je trahirais mes électeurs comme si aucun autre sujet dans l'opposition au macronisme existait. » C'est évidemment la question qui va se poser, notamment à Jordan Bardella, qui est aujourd'hui à la tête du parti, et à Marine Le Pen, députée demain à l'Assemblée nationale.
Alors que Jean-Luc Mélenchon est en train d'arriver à son QG, voilà, avec une foule de caméras autour de lui, le leader de la France insoumise, avec cette NUPES, cette union des partenaires de la gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et la France insoumise. On verra d'ici moins d'une minute le résultat des forces politiques en présence. On aura ce paysage politique qui sort des urnes au soir de ce premier tour des élections législatives. On est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec cette abstention extrêmement forte, ce désaveu des Français. Un Français sur deux, plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans les urnes ce soir. Un tout petit mot, Gérard Leclerc, 30 secondes avant 20h.
Oui, le paysage politique, le nouveau paysage politique, en fait, va se modeler à partir de ce qui va se passer ce soir et surtout, bien évidemment, au deuxième tour. On va avoir un paysage qui sera totalement, qui sera en tout cas pas totalement, mais largement différent de ce qu'on a connu avant. Avec la question, est-ce que oui ou non il y aura une majorité, et quelle majorité pour Emmanuel Macron? Et puis derrière, il y a notamment à gauche, et Macron a joué sur quelque chose qu'on a sous-estimé, qui est le besoin, le ressenti de l'union de la gauche. Même s'ils sont pas d'accord sur, s'ils sont d'accord sur rien, cette idée, et notamment chez les jeunes, de réunir la gauche, c'est quelque chose qui marche très bien auprès des
Il est pratiquement 20h, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour cette soirée législative 2022.